Sandra Viscardi.
Une vague d'opposition, 140 au total, c'est ce qu'a récolté la mise à l'enquête du foyer d'hébergement pour requérants d'asile dédié aux victimes de violences domestiques. Il est prévu à Rolles, dans le canton de Vaud. Il devrait ouvrir d'ici la fin de l'année dans l'ancien hôtel Riverolles pour accueillir au maximum 95 femmes et enfants, Léa Buchère.
Dès la présentation du projet en juin 2023, une partie de la population de Rolles et des villages aux alentours s'y est opposée. L'État de Vaud et l'EVAM, l'établissement vaudois d'accueil des migrants, ont alors ouvert le dialogue et ont tenté de rassurer les réfractaires. Ils ont assuré que le foyer serait uniquement pour l'hébergement d'urgence de femmes et d'enfants et ont diminué le nombre de places d'accueil de 140 à 95. Mais pas de quoi convaincre Jean-Pierre Roland, président de l'association d'opposants Bien Vivre à Rolles.
Ça, c'est le miroir aux alouettes, hein, des femmes battues avec leurs enfants. C'est en aucun cas engageant et contraignant pour les femmes et pour le canton. Ils disent ça maintenant, peut-être qu'ils en mettront au début, puis deux mois après, ils mettront d'autres types de réfugiés. On n'aura aucun moyen de s'y opposer. Donc, il y aura des jeunes célibataires, très jeunes. Le profil type des gens qui, pas tous évidemment, mais certains, qui sèment l'insécurité.
L'EVAM assure que ce ne sera pas le cas et tient à souligner que dans les autres centres d'accueil vaudois, moins spécialisés, la cohabitation avec la population se passe bien. Le temps que le canton traite les oppositions, l'établissement vaudois d'accueil des migrants espère pouvoir accueillir les premières familles l'an prochain et pour une durée maximale de 5 ans.
La commune bernoise de Brugge a accepté à plus de 84% le plan de zone qui permettra le transfert dans cette commune du centre hospitalier de Bienne. Un nouveau bâtiment de 200 lits attendu pour 2030. Couvrir votre toit de panneaux solaires au nom de la transition énergétique, c'est bien, mais ça ne rapporte plus gros. Les rémunérations des entreprises électriques sont à la baisse, si bien que les sociétés qui installent des panneaux vous conseillent désormais soit de ne poser que ce qui couvre votre consommation, soit d'installer en plus des batteries pour stocker le courant que vous pourrez donc consommer lorsque les panneaux ne produisent plus. Mauvaise idée, clame Diego Fischer. Il est ingénieur et membre du comité de l'association des producteurs d'énergie indépendants.
C'est une option de prudence. Malheureusement, si tout le monde fait ça, on ne va pas avancer avec la transition énergétique. Il ne faut pas oublier qu'une installation photovoltaïque, elle a beaucoup de coûts uniques, c'est-à-dire les coûts de base. Et puis, en effet, chaque panneau qu'on rajoute, ça devient meilleur marché. Alors qu'il part, ça vaut tout à fait la peine de mettre plus de panneaux, notamment avec des prix des batteries qui peuvent encore baisser, ce qui permet de nouveau d'augmenter l'autoconsommation. Avec la mobilité électrique, ça donne de nouveau des possibilités d'utiliser son énergie qui semble être trop aujourd'hui. Même maintenant, ça reste tout à fait intéressant, notamment aussi parce que les prix des modules, ils ont encore beaucoup baissé depuis le début de l'année. Alors, l'énergie photovoltaïque, ça reste toujours très intéressant.
Diego Fischer avec Romain Carupt. Une victoire suspecte aux yeux de l'Union européenne et des États-Unis qui réclament une enquête. En Géorgie, dans le Caucase, le parti au pouvoir Rêve géorgien, proche de Moscou, a remporté les législatives de samedi avec plus de 54% des suffrages. L'opposition pro-européenne parle d'une élection volée, alors que des preuves évidentes de fraude ont été recensées. La présidente géorgienne Salomé Zourabichvili a dénoncé une ingérence russe. Elle appelle à manifester ce soir à 19h devant le Parlement. Le premier ministre japonais Shigeru Ishiba promet des réformes fondamentales au sein de son parti. Plombé par un scandale financier de caisse noire, il a enregistré son pire résultat électoral depuis 15 ans, perdant sa majorité absolue au Parlement. Le chef de campagne a d'ailleurs démissionné ce matin. Les cours du pétrole en repli de plus de 4% sur les marchés asiatiques ce matin. Réaction au fait qu'Israël a épargné les sites énergétiques iraniens lors de sa réplique de samedi aux missiles iraniens qui ont touché son sol le 1er octobre. Comment diminuer les accidents chez les jeunes conducteurs de motos 125 cm3? Eh bien, la question se pose parce que depuis que l'âge minimum pour conduire une moto de cette cylindrée a été abaissé à 16 ans, 2021 donc, eh bien, les accidents ont triplé dans cette catégorie d'âge. Constat dressé hier dans la Sonntag Zeitung et que partage le bureau de prévention des accidents. Selon lui, la vitesse est la première cause d'accident chez ces jeunes motocyclistes. Pour le porte-parole du BPA, Lucien Combat, il faut donc améliorer la formation à la conduite.
On peut parler dans les modules de sensibilisation vraiment de la gestion du risque, d'inciter les jeunes à se représenter les situations qui peuvent être dangereuses, par exemple la conduite en groupe ou la conduite de nuit ou la conduite sur une surface mouillée, et puis les amener à réfléchir d'eux-mêmes en fait sur comment est-ce qu'ils peuvent développer des stratégies pour limiter les risques dans ces circonstances particulières. Donc là on est plutôt sur de la théorie, et puis on a d'autres aspects évidemment au niveau de la pratique où il faut vraiment ancrer aussi les bons comportements, que ce soit la conduite avec beaucoup d'anticipation, la concentration sur la conduite, pas se laisser distraire par autre chose, pas avoir les yeux sur son smartphone fixé au guidon, des choses comme ça, le respect des distances, enfin tous des éléments un petit peu de technique de conduite qu'on peut renforcer encore dans la formation à la conduite, en particulier sur ces jeunes motocyclistes.
Des propos recueillis par Anouk Pernet. Et si Servette était le prochain champion suisse de football? Oui, depuis hier et leur victoire 3-1 à Zurich, les Genevois sont leaders de Super League. Hier encore, match nul de Sion à Tourbillon, 2-2 face à Saint-Gall, et Lugano a fessé le champion en titre Young Boys 2-0. En hippisme, le jurassien Steve Garda, 3e du Grand Prix Coupe du Monde d'Oslo, en selle sur Isminka, il n'a été devancé que par le britannique Robert Whittaker et le français Kevin Staut. L'espagnol Carlos Sainz a lui remporté cette nuit le Grand Prix de Formule 1 du Mexique devant le britannique Lando Norris. Le monégasque Charles Leclerc complète le podium. Rire, c'est bon pour la santé, disait un certain conseil fédéral. C'est aussi bon pour faire baisser le stress au travail, selon une étude de l'université de Lucerne. Ça augmente la motivation, montre cette étude, sauf si on vous fait rire jaune. C'est ce qu'on peut lire dans la revue Central European Business Review. Beau, après dissipation des brumes matinales du plateau, 16 degrés en moyenne, 19 en Valais. Et il faudra vous habituer à ce régime météo parce qu'on en prend pour toute la semaine.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Si vous aussi, vous vous levez du bon pied le samedi matin avec RTS Espace 2, parce que toute la semaine, c'est debout la petite compagnie. Si vous aussi, vous aimez la musique classique, les arts visuels et le cinéma, la vie à peu près et ceux qui l'orchestrent. Si vous aussi, vous aimez la culture, mais vous avez loupé la dernière émission de Ramdam, entre nous, vous pouvez le regarder quand vous voulez, où vous voulez. Entre nous, c'est Play RTS, la plateforme de streaming romande.
Musique matin. Yves Bron.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin du 28 octobre 2024. Je suis bien content de vous retrouver, de passer cette matinée en musique, en votre compagnie bien entendu, avec Joseph Haydn pour commencer, qui s'est peut-être dit, j'y suis presque à la moitié en composant sa 50e symphonie en ut mineur. On écoute le final.
Thank you.
Et voilà, on est un peu passé du coq à l'âne avec un sentiment qui nous a envahi de légèreté, de naïveté. On était à la limite du régressif quand même ici avec cette reprise de Jean-Sébastien Bach par les Swingle Sisters. Les Swingle Singers, c'était en 1963. Et puis juste avant, eh bien, c'était Thomas Faye, la grande musique viennoise de Joseph Haydn, les Heidelberger Sinfoniker dans le final de la 50e symphonie donc de Joseph Haydn. Ce soir sur Espace 2, eh bien, c'est lundi, c'est Trans Europe, 19h30, en compagnie ce soir d'Antonin Scherrer, qui vous emmène à Paris pour un concert qui a été enregistré le 10 septembre dernier avec l'Orchestre National de France, Christian Macellaro à la tête de l'orchestre. Et puis l'invitation d'une grande violoniste, c'est Julia Fischer qui sera là pour interpréter le concerto de Brahms pour violon. Et bien entendu, il y aura également au programme une symphonie du même Brahms et puis images pour orchestre musique de Claude Debussy. C'est le programme qu'on vous propose donc à 19h30 ce soir dans Trans Europe sur Espace 2. La voix maintenant de Anna Prohaska, avant la question du concours, on va commencer cette semaine une nouvelle thématique. On écoute donc cette voix soprano dans l'ouverture et dans un air du premier acte de Didon aîné, musique de Henry Purcell. Thank you. Merveilleuse musique de Purcell, bien entendu, ici, avec ce célèbre extrait de Didon et Aîné. Et la voix est d'une soprano autrichienne habituée du festival de Salzbourg et habile dans tous les répertoires. C'est Anna Prohaska qu'on vient d'écouter ici avec le Giardino Armonico, j'y arriverai, de Milan sous la direction de Giovanni Antonini. Il est 7h21 déjà sur Espace 2 dans Musique Matin. C'est la question du concours.
Le concours de Musique Matin avec Payot Libraire.
Et donc une nouvelle thématique que nous proposent nos chers collègues de la documentation écrite et sonore de la RTS. Cette semaine, ils ont choisi de nous emmener au Canada. Première question aujourd'hui avec un son d'archive. On est ici en 1973. Très belle année. Une interview de Jacques Donzel. Qui parle ici? Vos réponses, eh bien, vous les envoyez comme tous les jours. Ça n'a pas changé. matinconcours@rts.ch.
C'est la première fois que vous chantez en Suisse romande. Vous avez l'impression qu'on vous attendait, que les gens voulaient vous voir après vous avoir entendu sur disque?
Bien oui, j'ai eu l'impression que les gens m'attendaient vraiment hier parce que il y avait beaucoup de monde et puis les gens ont eu l'air de bien apprécier. Et puis je sentais les visages, je sentais des sourires, les gens comprenaient pas tout évidemment parce que c'est un acoustique qui se prêterait surtout à l'opéra et le rock and roll nécessitant un certain volume. Disons que je crois qu'au balcon du dessus surtout le son s'est mis à tourner à un moment donné. Et ça devenait trop psychédélique, disons accidentellement psychédélique. Mais je sais pas, les gens, oui, ont eu l'air d'aimer ça énormément. Et puis moi, ben, c'était un de mes bons concerts.
Thank you.
Magnifique trio de jazz qui va magnifiquement bien également avec le Stratus qui vient d'arriver jusque dans la cour à côté de mon studio et que j'accueille donc avec plaisir. Je vous dis ça parce qu'on est début de la saison, disons que dans 8 semaines, quand je serai, nous serons dans, sous le couvercle. On parlera peut-être en d'autres termes. C'était Bill Evans qu'on écoutait ici au piano avec Eddie Gomez à la contrebasse, Marty Morell à la batterie. Je crois que c'est la dernière formation de son trio de Bill Evans. On était ici en 1974 avec une composition de Michel Legrand. What are you doing the rest of your life? Eh bien, qu'est-ce que tu fais le reste de ton temps? Pas grand chose quand on était Bill Evans et qu'on jouait si bien du piano, parce que la plupart du temps, bien, on était au clavier. Je sais pas combien d'heures par jour il jouait. Je sais pas si c'était 15 heures, comme Charlie Parker l'avait avoué une fois. On reste dans cette brume. Enfin, vous pouvez l'imaginer, cette brume, parce qu'il y en a peut-être pas autour de chez vous. Un nocturne maintenant de Gabriel Fauré avec Charles Owen au piano. Thank you. Charles Owen au piano dans ce nocturne, le quatrième en mi bémol majeur de Gabriel Fauré, extrait d'un disque qui était paru en 2008 chez Aville. La musique maintenant de Sibelius avec une de ses mélodies les plus célèbres, sa valse triste extrait de Kuolema, musique de scène. On écoute un enregistrement qui a une quarantaine d'années, réalisé en 1977, c'est-à-dire bientôt 50 ans plus tôt. C'est Neville Marriner qu'on écoute ici à la tête de l'Académie de Saint Martin in the Fields.
Thank you.
Neville Mariner à la tête de l'Académie de Saint-Martin in the Fields, dans cette valse triste, extrait célèbre, extrait de Qualema, musique de scène de Jean Sibelius, avec toujours cette atmosphère assez mélancolique dans l'émission de ce matin, et maintenant d'ailleurs un extrait d'un quatuor de Mendelssohn, le dernier qu'il a achevé de son vivant, c'est son sixième quatuor en fa mineur, on écoute le quatuor d'Orich dans le deuxième mouvement.
Thank you.
Alex Reddington et Jonathan Stone au violon, Hélène Clément à l'alto et John Myersko au violoncelle, le quatuor Dorich, enregistré ici en Grande-Bretagne dans le deuxième mouvement de ce sixième quatuor à cordes en fa mineur de Félix Mendelssohn. Piccinini maintenant, Alessandro, compositeur de son état. On écoute ici sa 12e toccata chromatique avec une luthiste, c'est Monica Pustilnik. Musique pour luth d'Alessandro Piccinini, enregistrée en 2013 par Monica Pustilnik, qu'on vient d'écouter donc ici dans cette 12e toccata chromatique, un disque accent. Et je vous donne la réponse à la question du concours, il est 7h52 sur Espace 2 et dans Musique Matin, on écoutait tout à l'heure la un extrait d'interview, d'entretien, de la première, de la radio suisse romande, à mon avis même certainement, 1973, Jacques Donzel invitait à son micro quelqu'un qui visiblement visitait la Suisse ou venait jouer en Suisse pour la première fois. Il s'est pas mal rattrapé depuis, j'ai pas mal de souvenirs moi de voir sa tête sur des affiches pour des concerts dans la région. C'était la voix de Robert Charlebois que vous avez été nombreux et nombreux à reconnaître et... Donc j'ai reçu beaucoup de bonnes réponses. Bravo en particulier aujourd'hui à Monsieur Philippe Duprat qui habite à Épande et qui a été tiré au sort pour remporter un bon offert par notre partenaire, la librairie Payot. Et puisqu'on est au Canada et qu'on visite le Canada dans les questions du concours toute la semaine, je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter quelques instants le pianiste canadien, pianiste de jazz, Paul Bley, qui était né donc à Montréal en 1932. Il nous a quittés en 2016 aux États-Unis. Paul Bley, quelqu'un de très important dans l'histoire du jazz. On écoutait d'ailleurs tout à l'heure Bill Evans, mais on pourrait le mettre un peu dans la continuité de ce Bill Evans. Et par contre, juste avant Keith Jarrett, si on a vraiment besoin de faire des listes et de parler d'influence réciproque, Paul Bley, on l'écoute ici avec notamment John Surman au saxophone, une composition de la femme, enfin pendant une époque surtout de Paul Bley, Carla Bley. Une composition de Carla Bley, ça s'appelle Seven, et donc Paul Bley est au piano. émission se poursuit bien entendu après les informations. Il y aura des nouveautés à écouter, des billets à gagner. Évidemment, vous écoutez Espace 2, il va être 8h dans quelques instants.